Les invités du podcast Diptyque sont artistes, galeristes, curateurs, conservateurs de musées. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. D'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de capter ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain arabe et africain. Le podcast Diptyque vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Emina Egesney. Nous sommes amis et je suis son travail avec beaucoup de passion depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je la reçois dans le ballroom de la Mamounia. Nous sommes en pleine 154 et nous allons parler de son approche en général, pas en particulier. Donc en fait, Emina Egesney est d'abord architecte. Aujourd'hui, elle est très connue pour ses grandes installations textiles. Importante. Vous avez pu voir des installations à la Société Générale, mais aussi dans des grandes expositions comme The World is Not as You See It. C'était ça, une exposition de Newel Slawi. Moi, j'ai vu aussi ses expositions, les restitutions de sa résidence à la Fondation H à Madagascar. Emina est représentée par la galerie Loft et actuellement, ses œuvres sont visibles donc à Dada, mais aussi dans son atelier à Marrakech. Emina, bonjour.
Bonjour.
Alors, le premier mot qui me vient en tête en pensant à ton travail, évidemment tes travaux d'installation textile, c'est la question du temps, des mains, de l'espace et de la matière. Est-ce que tu peux nous introduire à ces notions qui sont omniprésentes dans ton travail d'artiste contemporain, mais aussi évidemment qui sont peut-être dues à ta formation d'architecte, surtout la partie espace, évidemment.
Espace, oui. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est de raconter un peu l'histoire, comment je suis arrivée à parer ces espaces, parce que ça a commencé avec la parure, ça a commencé avec le bijou. Et le bijou, quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai commencé à faire des bijoux, on va dire wearable, que l'on peut porter, etc. Puis doucement, le bijou est devenu installation sur le corps. Et ensuite, cette installation a quitté le corps pour commencer à parer l'espace. Donc c'est ça qui est important.
Le corps ne suffisait pas.
Le corps ne suffisait plus. Voilà. Mais il y a toujours des va-et-vient entre les différentes échelles. J'aime bien aller très grand, puis revenir à une échelle beaucoup plus petite. C'est ça qui m'intéresse. Il y a cet effet
de changement d'échelle.
C'est comme l'accordéon, voilà. Ça se déploie dans l'espace, et puis ça rétrécit, ça revient, ça prend une petite échelle. Et par exemple, le travail qui a été fait pour l'expo de Joël,
Andriano Meharizoa à la fondation,
au musée Macal
l'année dernière.
C'était, on avait décidé de faire des boucles d'oreilles, de créer des boucles d'oreilles. Donc c'était vraiment, c'était comme un plan mais en miniature. Donc ce qui est important, c'est la notion d'échelle, mais comment on contrôle cette échelle. Donc par rapport à l'espace, c'est un objet dans l'espace. Ouais. Bien des fois, l'installation, elle crée un nouvel espace. C'est ça que je veux dire, la différence. Maintenant, tu parles du temps. Le temps est très important parce que it's slow. Tout est très lent. Le travail fait main, c'est la main. Le travail de la main, le geste, qui est presque un acte de performance, prend du temps, donc c'est tout ralenti en fait, et c'est intéressant de voir ces différentes vitesses en fait, dans un monde qui va très très vite, tout d'un coup le temps s'arrête et puis la main commence à travailler.
Alors justement, je vais
broder,
expliquer,
donc, à tisser.
Alors j'explique à nos auditeurs qui pour certains peut-être n'ont jamais vu tes œuvres, donc ce sont des grandes installations textiles. Et j'aimerais justement que tu expliques ton lien avec le monde artisan, avec les mains des autres, qui sont un prolongement et une démultiplication de ta propre main, de ta propre vision. Et là, on a besoin de comprendre exactement comment tu travailles. Tu parles très souvent de ta ma'alma Malika Ben Moumen. J'aimerais que tu nous expliques quel est ton lien avec les mains des autres.
Alors, oui, le lien... Oui, ce sont des extensions de mes mains. De, en fait, c'est comme être dans, un enfant qui est dans un grand magasin de jouets. Ce que je veux dire, c'est que on. L'extension des mains. Je vais parler d'abord du travail sur le terrain.
Oui.
Voilà. Alors, le travail sur le terrain est très important. Et je pense encore une fois, je dois revenir à l'histoire. Parce que comment je suis arrivée à ça? Ce n'est pas quelque chose de réfléchi. C'est assez en, comment j'ai commencé. Ce sont des histoires à nouveau. C'est ces collaborations avec des artisans à travers des projets de gouvernementaux qui ont fait que tout d'un coup, j'ai pris conscience que je pouvais travailler, collaborer avec des personnes qui avaient d'autres savoir-faire. Je sais pas si ça,
oui.
Ça a du sens.
Bien sûr.
Et donc, à un moment, encore une fois, il y a ce va-et-vient entre moi qui travaille avec mes mains et puis moi qui deviens chef d'orchestre, en fait, et qui commence à diriger tous ces musiciens, en fait. C'est comme une.
Et puis, ça, c'est une très belle image.
Ou d'une chorégraphie. C'est comme ça que je vois le travail.
Donc, toi, tu écris une partition.
Moi, j'écris une partition. Et puis, elle réalise cette partition. Mais il faut savoir une chose. Je ne sais peut-être pas tisser. Je ne sais pas travailler le cuir. Je ne sais pas travailler l'argent, peut-être. Mais je connais les techniques. Donc, je suis assise derrière. Et donc, si on revient au geste, à la main, ce qui se passe derrière un métier à tisser est quelque chose de complètement magique. Donc je suis assise avec ces femmes, elles sont en train de tisser, je connais les nœuds, je connais les techniques, je connais bon, la matière, je sais la matière. Donc voilà, il y a une complémentarité, il y a comme on appelle tabadoul.
Oui.
Donc ça c'est très important, il y a un échange. Et à un moment, effectivement, j'essaie de lâcher prise. Pour que cette main de la Melma puisse s'exprimer aussi, pour que la Melma puisse aussi s'exprimer. Donc ça, c'est très important.
Alors justement, les Melma, elles arrivent avec des savoir-faire qu'elles ont appliqués de manière ancestrale à des pratiques qui souvent sont liées à leur vie quotidienne. On tisse des textiles qu'on utilise dans la vie quotidienne. Donc tous ces savoir-faire, c'est d'ailleurs ce qui fait la force de l'artisanat marocain, c'est que c'est aussi un artisanat utilitaire, hein, et pas uniquement décoratif. Et en fait, je sais que toi, tu essaies aussi parfois de leur introduire à parfois des sens, des couleurs, des matières différentes. Comment est-ce qu'elles perçoivent tes prises de liberté par rapport aux matériaux et même aux techniques, au sens du tissage? Je sais que parfois tu leur dis, ben, va dans l'autre sens, oui. Fais autrement.
Alors, c'est intéressant parce qu'elles ne sont pas déformées. C'est la façon dont je peux exprimer cette liberté qu'elles ont. Elles prennent des risques. Il suffit juste d'être à l'écoute, en fait. Et une fois qu'on est à l'écoute, une fois qu'il y a un respect mutuel, il y a un lâcher-prise et donc... elles innovent. Je vais donner un exemple. Par exemple, à Tiefel, j'ai animé une formation et j'avais montré une robe haute couture d'un grand designer anglais et tout en duvet. Et le lendemain, cette Melma apporte des plumes et elle m'a dit, ben voilà, j'ai mangé ma poule. Et maintenant, j'apporte ces plumes et je veux tisser ces plumes. Donc, il y a des prises d'initiative. Ça n'arrive pas tout le temps, hein, mais quand il y a quand ça arrive, c'est vraiment magique. Quand quelqu'un ose, c'est-à-dire qu'elle voit ce qu'elles ont. En fait, il y a une prise de conscience de ce qu'elles ont dans leur environnement est magique et elles peuvent l'utiliser dans leur travail. Donc, elles ne sont pas toujours à « mais Andy, j'ai cela, je n'ai pas ça ». Voilà, donc il y a un côté pratique et fonctionnel, mais ce côté fonctionnel ben, donne naissance à des pièces magiques. Voilà.
Alors c'est intéressant le souvenir que tu évoques parce qu'on a beaucoup discuté, donc nous nous sommes vus à Madagascar. Donc, pour la petite histoire, Emina a été invitée en résidence à la Fondation H à Madagascar pour travailler donc... pour accompagner donc, l'exposition de cette grande tisserande d'artistes contemporaines, Madame Zo, qui était une artiste malgache. Et en fait, l'expo a été intitulée « Bientôt, je vous tisse tous ». Et cette femme a mis cette phrase dans la lettre qu'elle a adressée donc, à Hasnain Ridji, le fondateur de cette fondation H. Et cette phrase est très étrange parce qu'ensuite elle est décédée, elle n'a pas pu assister à son exposition. C'est une phrase très étonnante, on n'a pas arrêté de la prononcer. Et en fait, c'est une phrase qui ne cesse de trouver des justifications et des concrétisations dans le monde réel. Parce que quand elle disait « je vous tisse tous », elle tisse tous les matériaux possibles et imaginables, mais surtout elle a tissé les gens. Et le souvenir que tu évoques, donc de cette femme à qui tu montres une image auquel elle n'aurait peut-être pas eu accès, l'image d'un vêtement fait par un designer anglais sur des collections, et tout d'un coup donc elle arrive avec son propre savoir-faire, sa propre interprétation de cette image, et elle te propose quelque chose de nouveau. Donc là on voit presque le geste de tissage entre une image que tu proposes, un matériau qu'elle te propose, une manière de le faire, et voilà que vous vous êtes fait tisser par cette interaction autour du travail.
Absolument.
Donc j'aimerais que tu peut-être nous dises comment ça se concrétise.
Alors, d'abord il faut dire que c'est une question de rêve. Les artisanes leur permettent de rêver, très modestement à mon échelle à moi. Ça, c'est pour moi, c'est ça. Ce qui est important, c'est qu'elles puissent rêver, pouvoir planter une petite graine. Ça, c'est important parce que cette histoire de tissage, de maillage, on va parler de plus de l'intangible parce qu'un produit fini, une œuvre finie, une œuvre exposée, elle la met en compte. J'espère que, en tout cas, dans mon travail, ce travail de collaboration, j'espère qu'il y a une énergie qui se dégage, cette énergie qui a à voir avec cette histoire intangible, ce dépassement de soi, parce qu'il y a un dépassement de soi, c'est pas juste une technique qu'on applique, etc. Il y a des histoires qui se tissent quand l'œuvre est en train d'être créée. Et ça n'est pas toujours parfait, ça n'est pas toujours, je tiens à dire que on n'est pas dans un pays, c'est pas une histoire toujours parfaite, mais c'est ça qui est très beau, parce qu'encore une fois, moi je reviens ce va-et-vient, ce retour, voilà, tu produis, je regarde, elle reproduit, je re-regarde, il y a toujours le regard, et puis à un moment, c'est elle qui regarde. Et c'est là où je sais que j'ai réussi. Donc le maillage est important parce que ce n'est pas juste moi qui passe une commande.
Alors en fait, j'ai un mot qui me revient à propos de tes œuvres. Et si on revient à la présence de tes œuvres dans l'espace, c'est le mot « viralité » que j'avais lu un jour dans un texte à propos de Joana Vasconcelos, qui donc fait des œuvres textiles qui envahissent l'espace. Je me souviens d'une immense œuvre à la Fondation Pinault à Venise qui dévalait l'escalier, remplissait la rampe. Et enfin, bon, c'était vraiment une œuvre virale. Et j'avais lu dans le texte, au lieu de lire viralité, j'avais lu vitalité. Mais en fait, les deux mots conviennent. Et j'aimerais que tu me dises, dans ton travail, quelle est la dimension de vitalité et la dimension de viralité.
D'accord.
Parce que ça s'applique aussi très bien.
Oui. Alors moi, quand tu as mentionné le mot viralité, moi je pense plus à des modules.
Oui.
Et
ça se multiplie. Parce que dans viralité, ça se multiplie, multiplication cellulaire.
Ça se multiplie. Et de par ma formation d'architecte, en fait, je construis. Je construis des œuvres. Et donc, cette viralité, alors, généralement, très souvent, par exemple, dans mon installation Winnet, et ces cocons, voilà, oui. Il y a un assemblage, il y a une matière qui les lie. C'est un petit peu, c'est comme si je construisais des structures. Donc, dans cette notion de viralité, je parlerai d'abord du module, et puis ensuite, quand ça se multiplie, oui, ça se multiplie. Mais je pense qu'à la différence de cet artiste-là, il y a un contrôle sur la matière dans l'espace.
Oui.
Beaucoup.
Oui, toi,
c'est-à-dire
très
que
contrôlé.
Moi, ça ne dévale pas les escaliers. Oui. J'aimerais bien. J'essaye de lâcher prise. Mais pour l'instant, c'est encore très structuré. Il y a toujours des structures en métal. C'est-à-dire cette matière qui est généralement de la laine, j'ai besoin de la contrôler.
La structure.
J'ai besoin de la structurer. J'ai besoin qu'elle soit architecturée, en fait. Ça, c'est très important. Dans, alors, à l'espace Dada, alors là, c'était un véritable exercice parce que j'ai lâché prise et que, bon, la viralité, elle est sur une plus petite échelle, mais elle se fait sur des... on la voit sur des panneaux. Et donc là, la matière, je l'ai laissée s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle a pris le dessus sur l'œuvre.
Alors, parlons matière, justement.
Au côté verso.
Parce que ce qui te définit et qui fait évidemment la différence entre un artiste et quelqu'un qui n'est pas artiste, c'est la liberté et la recherche matériste, hein, la recherche de matière et la réflexion sur ce que peut telle matière, ce qu'elle ne peut pas. Et parfois, quand elle ne peut pas, tu fais advenir des choses assez étonnantes. J'aimerais bien que tu nous parles de tes dernières recherches sur la matière. Il y a l'écorce de palmier.
Oui, self-damped.
Voilà, brodé. Il y a le métal. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais que tu nous parles un peu de tes recherches. Oui. Et ça, vraiment, là, c'est l'architecte.
C'est l'architecte, mais c'est aussi... Alors, je reviens encore à mon expérience au début de ma carrière. Je me qualifiais étant créatrice de matière.
Oui.
Et en fait... on réagit toujours par rapport à son environnement. Donc, ma première collection, bon, je suis rentrée des États-Unis au Maroc pour faire des bijoux. Donc, la première collection, parce que toutes les collections de bijoux sont un peu comme des journaux intimes. Et j'avais créé avec des pierres semi-précieuses, etc. La deuxième collection, ben, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et il y a eu un déclic. Et c'était dans un magasin de Rad. Je me suis dit, j'ai pas les pierres qu'il faut. Et tout d'un coup, c'était plus une question de matière, c'est une question de forme et de couleur, en fait. Et tout d'un coup, il y a un monde qui s'est ouvert à moi.
C'est sorti de la question de la préciosité.
La préciosité, mais un monde s'est ouvert à moi. C'est-à-dire que je pouvais utiliser tout ce que je pouvais trouver. Et je crois que c'est un peu ça que j'essaie d'inculquer à ces artisanes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'attendre de la laine qui vient de je ne sais où pour pouvoir tisser.
Oui, tu m'as parlé du raffia dernièrement.
Et le raffia. Ouais. Donc, je me disais, en fait, je crée de la matière, matter, à partir de la matière brute que je trouve. Je crée ma propre matière. Je recrée la matière à partir d'une matière brute. Et donc, ça a été, la raide, le bois, le papier, le caillou,
Et Madagascar.
Et Madagascar, le raffia.
Le raffia.
Comment ne pas travailler le raffia quand on est... pas confronté, parce que c'est pas le bon mot, mais
exposé
ouais. à cette matière qui est travaillée au bord d'un fleuve, qui est comment elle est teinte, comment elle est exposée au soleil. C'est des véritables installations, hein.
Ouais.
C'est d'une beauté. Donc évidemment, j'ai voulu travailler le raffia, et là ça a été une sacrée expérience, ouais. Parce que c'est une matière nouvelle. Et ce qui était intéressant à Madagascar, c'est que j'ai retravaillé avec mes mains. Donc j'ai
retrouvé l'usage de tes mains.
J'ai retrouvé l'usage de mes mains. Mais j'ai aussi travaillé avec des femmes artisanes brodeuses qui, elles, n'avaient jamais travaillé, qui n'avaient jamais brodé avec du raffia. Donc c'est ça qui était intéressant.
Alors, pour finir, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu perçois dans ton travail de l'envers et l'endroit. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné, la question de l'envers et l'endroit. Moi, j'aime toujours regarder les tissus à l'envers, j'aime les utiliser à l'envers. J'aime bien toujours l'envers, les coutures.
Et chez toi,
il y a toujours l'envers et l'endroit. Et les deux se regardent puisque ce sont des sculptures, donc on tourne autour. Donc, il n'y a pas une face et l'envers caché.
Et l'endroit, oui. C'est, on va dire, c'est deux œuvres en une œuvre.
Ouais.
Allez hop. Mais ce que je voudrais dire, si je prends l'exemple de ce que j'ai fait pour l'espace, pour la 1,54 ici à l'espace Dada, c'est qu'en fait, c'est cette matière qui est à la base tissée à Madagascar et qui est brodée à Marrakech et à Casablanca. Mm-hmm. il y a une face qui est, on va dire, qui est complètement en deux dimensions, qui est où il y a l'ordre, où c'est très ordonné, c'est la ligne qui prime. On voit la broderie. Et puis à l'arrière, c'est le chaos total.
C'est le chaos.
C'est un chaos qui est quand même un peu contrôlé. J'ai laissé la matière faire ce qu'elle voulait, mais ce que j'aime, c'est que cette ligne est devenue fluide. Elle est devenue volumineuse.
C'est une sculpture.
Elle est en mouvement.
Oui.
Quand voilà, il y a une petite brise, et ben ça, c'est ça qui me plaît en fait. L'envers
et l'endroit.
Voilà.
En tout cas, pour finir, voilà, je voudrais dire en te remerciant de m'avoir accordé ce moment, que ce qui fait la différence quand même entre une œuvre d'art contemporain et un objet reproductible de design ou autre, c'est justement toute cette dimension de recherche. C'est la dimension de liberté qu'on prend par rapport aux matériaux. C'est l'accident de la forme. J'ai vu les œuvres, la broderie sur palmier. Chaque œuvre est différente, évidemment, parce que tu travailles sur les accidents de la matière. Et merci, Amina.
Mais
si
écoute,
tu as quelque chose à dire, je t'écoute.
Oui, alors, je voulais dire, parce que c'est une question que je me pose souvent, c'est qu'une œuvre, quand elle est dans l'atelier de la Melma, bon, je travaille sur le terrain, c'est très important. Et je me pose toujours cette question, quand est-ce qu'elle devient œuvre d'art? Est-ce qu'elle devient œuvre d'art chez la Melma ou le Mellem, dans son atelier, que ce soit Tiefeld, Edis, Fomsgeld, que sais-je, ou bien quand elle voyage et qu'on la retrouve dans un musée ou dans une galerie, etc. Et je me suis dit que non, elle commençait chez la Melma parce que c'est une question d'intention.
Elle commence dans ta tête, en fait.
Mais c'est l'intention.
Oui, c'est l'intention.
C'est l'intention qui prime.
Ouais, merci pour cette clarification magnifique. Merci beaucoup, Amina.
Mais c'est moi qui te remercie.
Et rendez-vous dans ton atelier à Dardmana.
Oui, à Dardmana, absolument. Merci.
Merci. Un immense merci à notre invité d'avoir pris part au podcast Diptyque et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien continu. Si cet épisode vous a captivé, nous serions ravis d'entendre vos impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Le podcast Diptyque est rendu possible grâce au généreux soutien de Maroc Télécom. Il est produit par Aros Konpoyo, montage assuré par Simo Bakrim. Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Vous trouvez le dernier numéro en kiosque partout au Maroc. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter hebdomadaire online sur www.diptyquemag.com. À bientôt pour le prochain épisode.